Docteur Romaric Nzumbu-Boko, bonjour.
Bonjour.
Dans le cadre des journées portes ouvertes de l'Union européenne, qu'est-ce que vous avez apporté comme résultat à exposer pour le public?
Vous êtes devant le stand BIS de l'Institut Pasteur parce qu'on a deux stands compte tenu de place. Là, c'est le deuxième stand de l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur a trois missions. La recherche, l'appui à la santé publique et la troisième mission, c'est la formation. Alors, en ce qui concerne la recherche couplée à l'appui à la santé publique, l'Institut Pasteur travaille beaucoup plus sur les complexes pathogènes tropicaux, les agents pathogènes qui circulent dans les zones tropicales. Tel que vous voyez sur les diapositives, on a un service d'entomologie médicale qui travaille sur les vecteurs des arbovirus. Vous regardez, c'est invasion d'Aedes albopictus en République centrafricaine et conséquences sur l'épidémiologie d'arbovirose. Le vecteur des arboviroses qui sont par excellence la fièvre jaune, le chikungunya, Zika, qui sont les arboviroses, ces vecteurs originellement étaient en Asie avec le changement climatique aidant. C'est retrouvé en Afrique. Ça a colonisé l'Afrique et on essaie de les caractériser en RCA. Donc on va au niveau des gîtes naturels, péridomestiques, domestiques, on fait des captures de moustiques, on vient au laboratoire, il y a des clés de détermination qu'on utilise pour les caractériser. Après on les élève dans les conditions de laboratoire pour voir leur physiologie, tester nos insecticides pour voir si c'est efficace. Aussi on travaille sur le vecteur du paludisme, une maladie très très dangereuse chez nous. On essaie de voir aussi le vecteur, sa capacité de transmission, tout ce qui est prévalence de ces vecteurs dans nos régions, les zones où ils sont nombreux ou pas, la saison, ainsi de suite.
Qu'est-ce que c'est que les arboviroses, de manière simple?
Les arboviroses, de manière simple, ce sont des maladies virales qui sont transmises par des moustiques.
Uniquement par des moustiques?
Uniquement par des moustiques. Et donc, je vous avais cité l'exemple de la fièvre jaune, qui est une maladie à déclaration obligatoire. Je vous ai parlé de Zika, je vous ai parlé de la dengue, de chikungunya, qui sont les principales maladies des arboviroses qu'on essaie de rechercher au niveau de l'Institut Pasteur de Bangui.
Des différents gîtes de multiplication des moustiques, vous parler de ce qui est naturel, péridomestique et puis domestique. Quelle différence faites-vous entre péridomestique et domestique?
Alors, péridomestique, la photo est devant vous. Vous regardez, il y a un pneu avec les flasques d'eau. Ces pneus sont généralement autour de la maison, soit des foyers, avec des flasques d'eau qui constituent les lieux de reproduction de ces moustiques domestiques. Là, vous regardez une marmite qui est abandonnée derrière la maison, proche de la cuisine, avec de l'eau qui constitue les sites de multiplication de ces moustiques. Et naturel, c'est un arbre avec des flasques d'eau toujours, lequel l'arbre, ça peut être un peu loin de la maison, où ces moustiques peuvent aussi se développer.
Et quelle est l'importance de l'élevage des moustiques ici?
On fait l'élevage dans un premier temps pour garder la liée, la souche. En plus, on essaie de tester nos insecticides sur ces moustiques vecteurs. On essaie de voir l'efficacité. On a une gamme des insecticides qui existent. Il y en a qui ne sont pas efficaces. Les moustiques ont développé des mécanismes pour développer des résistances vis-à-vis de ces insecticides. Donc, on essaie d'évaluer pour voir lequel on peut conseiller au ministère de la Santé publique pour l'utilisation.
Qu'est-ce qu'on peut retenir au niveau de la dynamique de la rage à Bangui?
Le mot dynamique sur la diapositive, c'est l'évolution dans le temps. Et donc, si vous regardez sur la diapositive de 2007 jusqu'à 2016, il y a des pics. Il y a des moments où on n'a plus des déclarations des personnes mordues ou des animaux mordeurs. L'exemple type, c'est en 2014 où on a un pic, 1526 personnes mordues, c'est les cas déclarés. Et toujours dans la même année, on a 821 animaux mordeurs. Donc c'est ce qu'on appelle la dynamique. Vous avez en 2011 876, en 2015 467, donc ça module en fait. Voilà pourquoi on a mis dynamique. Parallèlement à des personnes mordues et animaux mordeurs, on fait la surveillance du virus proprement dit, c'est-à-dire quand il y a des cas de morsure, on nous amène l'échantillon, le chien, on essaie de tester. La figure d'en bas vous montre, en 2007 par exemple, on a eu 58 échantillons testés. Sur les 58 échantillons testés, 50 cas positifs, c'est-à-dire 50 chiens avaient la rage. Et donc là, c'est pour 2007. Si vous regardez en 2012, c'est là où il y a le pic, où on avait 85 cas des échantillons qu'on nous a amenés. Et sur les 85, il y a 73 cas positifs. Et donc, ça évolue en fonction de temps. Voilà pourquoi il y a le terme dynamique, monsieur le journaliste.
Un chien qui vient d'être contaminé par la rage en moins de deux ou un jour, est-ce qu'il peut contaminer quelqu'un en cas de morsure?
Ça, c'est une question purement technique, monsieur le journaliste. Normalement, il y a un cycle de développement au niveau du chien. Ce n'est pas automatique. Je ne dis pas enragé, le chien ne peut pas être contaminé automatiquement et puis transmettre le virus. Il y a un cycle de développement au niveau du chien pour que le chien puisse développer sa maladie, c'est-à-dire devenir un chien enragé. Et c'est en ce moment qu'il devient hautement pathogène.
Au niveau des recherches de terrain avec la surveillance de l'Ebola.
L'appui à la santé publique, on travaille sur l'Ebola. en République centrafricaine, on fait frontière avec le Congo démocratique, hein, qui est un pays épidémique de l'Ebola pour l'instant. Et donc, nous, on fait la surveillance. L'exemple devant vous, on a fait une étude au niveau de Gordil, Vendele, il y a eu 0% de cas. À Bangassou, on a la signature de l'Ebola. Maintenant, on essaie de capturer les réservoirs, c'est-à-dire la chauve-souris, hein, certains animaux. On essaie de rechercher s'il y a les anticorps de ces virus sur ces échantillons. Et donc, à Bangassou, on a la signature. Dans la Lobaye, sud des Pygmées, au niveau des Bantous, on a aussi des valeurs, hein, 13%, 10% de la prévalence. Au niveau de Nola, on a la prévalence. Et si vous remarquez sur la carte, c'est la zone qui fait frontière avec la République démocratique du Congo. Et donc, ce qui sous-entend qu'il y a traversé des animaux ou des vecteurs, ainsi de suite.
Pourquoi la période qui vient après 1998 n'est pas évoquée concernant la prévalence de Ebola par région?
L'Ebola a été identifié en 1976, mais les travaux sur l'Ebola dans les strictes réglementations ont commencé en 1995. Voilà pourquoi on vous a présenté le résultat de 1995 à 1998. Pour l'instant où je vous parle, il y a des travaux sur l'Ebola à l'Institut Pasteur et que les résultats sont en cours de traitement.
En exemple, à Gordil, il y a eu 0% de cas d'Ebola. Quels sont les facteurs qui ont fait que cette région n'est pas menacée?
Je vous ai parlé de la proximité avec le pays épidémique. Le pays le plus proche de chez nous, c'est la République démocratique du Congo. Gordil, c'est un peu vers le Tchad. Il n'y a pas encore eu de cas déclaré au Tchad ni au niveau du Soudan. Donc, pour l'instant, l'hypothèse reste une hypothèse. C'est la proximité avec le Congo démocratique.
Et pourquoi au niveau de la Lobaye, les Pygmées et les Bantous sont beaucoup plus touchés que les autres populations?
C'est la proximité avec la forêt. Parce que les réservoirs sont dans la forêt. Vous avez les chauves-souris, vous avez le singe. Et cette proximité, qui reste aussi une hypothèse, peut être à l'origine de la présence ou encore la prévalence de cette signature dans cette zone.
De quoi parle-t-on au niveau de la quatrième présentation?
Alors, la quatrième présentation parle de variole du singe, dont son nom scientifique c'est le monkeypox, en RCA. La variole de l'homme est éradiquée depuis 1980, c'est-à-dire que ça n'existe plus, mais il se trouve qu'il y a la variole du singe. Vous savez qu'il y a la variole aussi du vache. La variole de vache, ça s'appelle vaccine. Différents mammifères ont des varioles. Et la variole du singe est causée par un virus qui est proche de celui de l'homme qui est déjà éradiqué. Depuis un certain temps en RCA, en 2010 par exemple, il y a deux pygmées qui ont présenté les symptômes, les signes de la variole du singe après consommation de rongeurs. Et donc, il y a des cas sporadiques avec l'aide de Médecins Sans Frontières qui nous envoient les échantillons et qu'on essaie d'analyser. Vous avez vu, par exemple, en 2001, il y a eu 8 membres d'une même famille qui ont fait la variole du singe. Ils ont trouvé les carcasses d'un singe et puis ils ont pris, ils ont mangé. Et puis 8 ont fait la maladie, dont 2 sont décédés. Vous avez des cas un peu sporadiques à Bagandou, à Pimo, vers Mobaye, à Bria, à Batangafo, à Mongumba. Et ça donne des éruptions cutanées un peu typiques avec quelques différences de la variole chez l'homme. Et donc, l'Institut Pasteur essaie de travailler dessus pour faire l'épidémiologie, essayer d'appuyer en termes de conseils, de prévention, après morsu par un écureuil. Et puis, ça développe aussi la maladie. On essaie de recenser les réservoirs parce que jusqu'à aujourd'hui, dans le monde, on ne connaît pas encore la totalité des réservoirs.
Des personnes qui ont souffert de la variole du singe, après guérison, est-ce qu'ils vont vraiment retrouver leur peau initiale, c'est-à-dire une peau sans tache?
Le traitement déjà de la variole du singe reste un peu compliqué. C'est une zoonose. C'est une maladie de l'animal qui passe à l'homme. On traite les symptômes, donc c'est en fonction du pronostic. Quand c'est identifié très précocement et qu'on essaie de commencer à traiter les symptômes, ça ne peut pas laisser beaucoup de traces. Déjà même quand c'est précoce, vous avez vu, il y a des cas de décès. C'est-à-dire qu'il y a le pronostic vital qui est engagé et quand le pronostic vital est engagé, même si on arrive à récupérer la personne, il peut rester des séquelles en termes de cicatrices ou encore en termes d'autres types de séquelles généralisées.
Docteur Romaric Zumbu Boko, je vous remercie.